Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 1er octobre, une nouvelle radio de l'épidémie en fin d'après-midi par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Mais l'heure est plutôt aux concertations qu'aux restrictions. Jean Castex a reçu les maires de quatre grandes villes. À Rennes, les salles de sport vont pouvoir rouvrir. La justice a retoqué l'arrêté préfectoral. Dans RTL Midi, nous nous intéresserons aussi à cet appel lancé ce matin par l'INSERM à 25 000 volontaires pour tester des candidats vaccins. Comment maîtriser des fractions quand on a encore du mal avec les soustractions? Le niveau en maths des CM2 décroche. 54% des élèves ont des acquis fragiles. 1 sur 5 seulement arrive à réutiliser des notions de maths dans la vie courante. Alexei Navalny accuse nommément Vladimir Poutine d'avoir commandité son empoisonnement. Dans une toute première interview, l'opposant russe promet de revenir dans son pays pour poursuivre son combat. La météo, elle s'arrête aujourd'hui à la lettre A, A comme Alex. Première tempête de l'automne. 5 départements de l'Ouest sont déjà en vigilance orange. Bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
On attend des vents jusqu'à 140 km/h.
Oui, ça sera pour la nuit prochaine. Hein. C'est vrai qu'à partir de minuit ou 2h du matin, on devrait effectivement avoir des rafales approchant peut-être les 150 km/h, notamment sur le Morbihan, sur le sud de la Bretagne. Mais avant cela, on va faire avec une perturbation qui traverse actuellement la France. Alors elle est plutôt arrivée dans l'Est. Là, on la retrouve des Pyrénées à la région Rhône-Alpes et au Nord-Est. Elle sera sur les frontières de l'Est cet après-midi. Et puis après son passage, on retrouve dans l'ouest temporairement quelques éclaircies avec encore des averses. La Méditerranée sera relativement épargnée en attendant donc cette tempête qui ce soir va se renforcer très nettement sur la Bretagne avec beaucoup de vent, on l'a dit, mais également beaucoup de pluie. Les températures poursuivent leur baisse, 14 à 17 degrés dans la moitié nord, 17 à 20 degrés dans le sud.
La question du jour à propos de l'avortement. Faut-il allonger le délai légal de 12 à 14 semaines? Vous êtes 38% à nous dire oui, il y a 43% de non. Nos auditeurs sont très partagés. On les attend au 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour, et nos auditeurs pourront entre 14h et 14h30 échanger avec le professeur Israël Nizan, qui est président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. C'est l'un de nos thèmes majeurs. Autre thème, nos élèves sont-ils en sécurité dans les établissements scolaires? Est-ce que vous avez peur pour vos enfants? Hier, un lycée de 16 ans a été agressé au couteau en pleine classe. On pourra également parler évidemment de l'éducation et de mathématiques, puisque nous sommes pas très bons. Et puis, c'est vrai que l'INSERM invite tous les Français prêts à tester un des projets de vaccin, à imaginer de venir tester ce vaccin. Est-ce que vous seriez prêts, par exemple, s'il y avait un vaccin contre le coronavirus, à l'essayer? À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
C'est un peu comme la feuille de température d'un malade. Olivier Véran, le ministre de la Santé, tiendra son point presse hebdomadaire en fin d'après-midi sur la progression de l'épidémie. Y aura-t-il de nouvelles restrictions? Les maires de plusieurs grandes villes ont été reçus ce matin par le Premier ministre. On va y venir. Mais d'abord, cet indicateur de l'état d'esprit des Français. Certains se remettent à faire des stocks comme avant le confinement. C'est ce qu'a constaté le réseau La Fourche, qui vend des produits bio en ligne à Gatlandais.
Oui, depuis la semaine dernière, leurs commandes ont grimpé en flèche, explique Lucas Lefebvre. Il est cofondateur de La Fourche.
Alors, on a eu 22% de vente de farine en plus, 50% sur sucre de canne, les préparations pour gâteaux, 260%, les préparations pour pain, 350%. De la même manière que ce qui s'était passé à la veille du confinement en mars.
Des commandes qui abondent d'un peu partout en France, et c'est encore plus frappant dans les villes où les mesures sanitaires ont été renforcées récemment.
L'augmentation de ces ventes est plus forte. Par exemple, en région PACA, on a regardé les ventes autour de Marseille, d'Aix. On a constaté l'augmentation assez drastique des ventes sur des produits de base, produits d'épicerie, de pâtisserie. Donc on a l'impression que voilà, les gens se préparent à être de nouveau confinés chez eux.
En revanche, cette augmentation très importante des ventes ne concerne pas les grandes surfaces où, avant le confinement, de nombreux Français faisaient des stocks de pâtes, de papier toilette, et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui.
Donc effectivement, pour l'instant, ce mouvement n'est pas généralisé. Merci Agathe. D'après nos informations RTL, pas de fermeture des bars et restaurants à Paris. L'exécutif tire les leçons du ratage marseillais la semaine dernière. Il y avait eu restrictions sans concertation. Jean Castex a reçu ce matin les maires de Paris, Lille, Lyon et Grenoble. Grenoble. Et cette fois, William Galibert, c'est plutôt concertation sans restriction.
Oui, c'est exactement ça. Et je peux vous le confirmer, ce soir, il n'y aura pas d'annonce choc pour toutes ces villes que vous venez de citer. Paris, Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse également. Pas de fermeture forcée, de rideau baissé pour le moment. On reste sur ce qui est déjà mis en place avec ces fermetures à 22h. Le Premier ministre, lui, met en scène le dialogue avec les élus locaux pour s'éviter un Marseille bis et la colère qui a suivi. Il attend encore une semaine pour voir si les mesures existantes sont efficaces. Et même Martine Aubry, la maire de Lille, semblait plutôt satisfaite à la sortie de son rendez-vous.
Ce matin, c'était important parce que c'est vrai que certains de nos indicateurs pouvaient laisser à penser qu'on arrive à une situation à la Marseillaise. Et là, on nous laisse ce délai pour qu'on voit si les dernières mesures du gouvernement portent leurs fruits.
Message d'alerte tout de même. Si la situation, si les indicateurs ne s'améliorent pas dans 8 jours, là par contre, il faudra certainement durcir une nouvelle fois le ton et procéder à des fermetures pures et simples. C'est ce que dira Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui donne une nouvelle conférence de presse ce soir à 18h.
Merci William Galibert, en direct de Matignon. Les restaurateurs, mais aussi les gérants de salles de sport, avaient déposé de multiples référés contre les arrêtés préfectoraux dans plusieurs villes. Et on a un petit peu de mal à suivre. La demande de réouverture des salles de sport a été refusée à Bordeaux et à Nice, mais acceptée ce matin à Rennes. Comment le juge des référés justifie-t-il cette décision, Arnaud Touche ?
Eh bien, par cette phrase, la mesure n'est pas nécessaire et adaptée pour préserver la santé publique et lutter contre la propagation du virus. Et pour obtenir cette décision, Maître Vimon Gabory du cabinet Lumea à Rennes s'est appuyé sur les chiffres locaux qui ont été confirmés par le juge des référés, qui note qu'au 11 septembre 2020, en Bretagne, la liste des foyers de contamination ne comporte aucun établissement de cette catégorie. En clair, pas de cluster dans les salles de sport à cette date-là. De quoi donner de l'espoir à Thierry Doll, président de France Active, qui représente les pros du fitness en France.
Satisfaction pour Rennes, mais je vais rajouter aussi et également que nous avons déposé 16 recours en référé dans l'ensemble des régions qui ont été impactées par la fermeture des salles de sport. Et tout au long de la semaine, nous en avons d'autres également qui vont être jugées.
Alors dans les autres villes, les salles de sport ont été déboutées. À Lille, hier par exemple, les juges estiment que la fermeture des salles de sport n'est pas disproportionnée par rapport aux contaminations sur place. Seuls les juges rennais ont donné raison au club de fitness ce matin. À Rennes, ils peuvent donc rouvrir immédiatement. L'État peut néanmoins à nouveau contester cette décision, mais elles resteront ouvertes en attendant.
Merci Arnaud. Et l'INSERM lance un vaste appel aux volontaires. On en parle dans un instant avec l'invité d'RTL Midi.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Et pour accélérer sur les vaccins, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'INSERM, recherche 25 000 volontaires pour tester dans les prochaines semaines des projets de vaccins. Bonjour professeur Lelièvre.
Bonjour.
Vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondeur de Créteil. Vous lancez un appel à toutes les personnes de plus de 18 ans. Il n'y a pas de limite d'âge ?
Non, il n'y a pas de limite d'âge et je dirais même qu'on cherche en priorité des gens les plus âgés puisque ce sont les personnes qui sont le plus à risque de faire des formes graves de Covid. Et donc, c'est ces personnes-là qu'on souhaite, pour lesquelles on souhaite mettre en place un vaccin et donc on souhaite les inclure dans des essais cliniques.
C'est-à-dire des personnes qui ont par exemple plus de 80 ans ?
Alors, plus de 80 ans, oui, il faut quand même avoir toutes les capacités physiques et psychologiques oui. pour être dans un essai clinique. Donc, les gens très, très âgés, peut-être pas, mais des gens de plus de 65, 70 ans qui, habituellement, ne sont pas inclus dans des essais cliniques, oui.
Mais justement, il n'y a pas de risque particulier pour ces personnes-là ?
Alors, a priori, il n'y a pas de risque particulier. La tolérance des vaccins ne dépend pas de votre âge. Par contre, ce que l'on connaît moins, puisque c'est moins réalisé, en tout cas avec les essais cliniques qui sont en cours, c'est l'efficacité chez des gens qui sont le plus âgés. La plupart des essais qui sont en cours visent à tester l'efficacité des différents candidats à vaccins chez des gens plus jeunes, en gros entre 18 et 55 ans.
Vous allez tester combien de vaccins, professeur ?
Alors, pour l'instant, on ne sait pas. C'est vraiment une mise en place d'un réseau qui vise à tester des candidats vaccins. Oui. On a la possibilité de faire 5 essais, ce qu'on appelle de phase 2, pour tester l'immunogénicité, donc regarder la réponse immunitaire au vaccin. Et donc ça, c'est quelques centaines de personnes. Et 3 essais de phase 3, donc pour vraiment tester l'efficacité, la protection contre l'infection. Et ça, c'est plusieurs milliers de personnes.
Concrètement, ces personnes vont recevoir plusieurs injections. Comment ça va se passer ?
Ça va dépendre des candidats vaccins. On est en cours de discussion pour savoir quels candidats vaccins vont être inclus dans ces essais cliniques. Certains candidats vaccins vont se donner sous la forme d'une seule injection et d'autres sous la forme de deux injections. C'est les schémas qui, à l'heure actuelle, sont retenus avec les différents candidats qui sont en cours d'évaluation.
Et le suivi de ces volontaires, il va durer combien de temps ?
Alors, le suivi de ces volontaires dure en général plusieurs mois, parce que ce que l'on veut savoir, c'est à la fois la tolérance du vaccin, et en général, ça on regarde sur quelques semaines, mais on va envie de regarder très longtemps, et surtout on va les suivre très longtemps, parce que ce qu'on va voir, c'est aussi l'efficacité, et si cette efficacité, elle va durer 6 mois, 1 an, voire un petit peu plus, 1 an et demi, etc.
Vous attendez les premiers résultats dans combien de temps ?
Alors, les premiers résultats, ça va être très variable. Quand vous regardez l'immunogénicité, donc l'efficacité biologique d'un vaccin, vous pouvez avoir une réponse assez rapidement, en quelques mois, 3-4 mois après la fin de l'inclusion. Pour ce qui est de l'efficacité, ça dépend évidemment du nombre d'infections qui vont survenir au cours de l'essai. Donc, c'est très difficile de prédire. Pour vous donner une idée, dans d'autres pays où ces essais ont commencé, les essais ont commencé au début juillet, et on nous annonce des premiers résultats en fin d'année, début d'année prochaine.
D'accord, tout ça va prendre quand même de longs mois. On rappelle le nom du site où les volontaires peuvent s'inscrire. Vous en cherchez 25 000. Il y a déjà pas mal d'inscrits ce matin ?
Alors, ce matin, pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui sont connectés. On ne peut pas savoir si c'est des gens qui sont inscrits ou simplement des gens qui s'intéressent et qui veulent voir
comment ça se passe, quelle est la procédure. On rappelle le nom du site. Voilà, c'est Covirevac, covirevac.fr. Merci beaucoup, professeur.
Je vous en prie.
Au procès des attentats de janvier 2015, la Cour d'assises spéciale de Paris s'intéresse aux armes utilisées par les 3 terroristes. Ce matin, à la barre, un trafiquant lillois, cité comme témoin, c'est lui qui a importé en France les armes qui ont servi à Mehdi Coulibaly, Anne Lehnaff.
C'est une masse de muscles qui s'appuie à la barre. Crâne rasé, barbe blanche qui dépasse du masque, pantalon kaki avec des poches sur les côtés. Quand on vend des armes, c'est dans quel but ? Demande le président. Je réponds à la demande de passionnés et de chasseurs, assure Claude Herman. Mais enfin, des fusils d'assaut pour les chasseurs, il y en a assez peu, rétorque le président. Claude Herman importe les armes désactivées de Slovaquie. Il assure qu'il ne les remet pas lui-même en état de fonctionner. De toute façon, dans ce monde de voyous, on se rejette les responsabilités, note le président. On met un brouillard dessus. Claude Herman affirme surtout qu'il fait ça pour la France. Il est indique pour les gendarmes, pour les aider à infiltrer des réseaux de braqueurs roubaisiens. Ah mais quand ils ne sont pas arrêtés, ça fait des Coulibaly, ça fait 17 morts en 2 jours, accuse le président. Le trafiquant hausse les épaules. C'est un énorme loupé, j'y pense tous les jours. Lui a déjà été condamné pour ce trafic d'armes. Les armes de Coulibaly sont passées par lui. Mais ensuite, quel rôle ont joué les accusés qui sont dans le box ? Là aussi, c'est le brouillard.
Anne Lehnaff au tribunal de Paris pour RTL. Victorine a été noyée, c'est ce qui ressort de l'autopsie pratiquée hier. Le corps de la jeune fille de 18 ans présente de multiples ecchymoses. Pour sa famille, ça vient accréditer la thèse d'une mauvaise rencontre. Une messe aura lieu ce soir à 19h à l'église de Villefontaine. Dans l'actualité, il y a aussi cette enquête sur le niveau en maths des élèves de CM2. Ils n'ont pas vraiment la moyenne. On y vient dans un instant.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Les fractions et les perpendiculaires les laissent perplexes. Le niveau de maths des élèves de CM2 continue de chuter. D'après une enquête publiée par l'Éducation nationale et menée auprès de 6000 élèves, plus de 54% des écoliers ont des acquis fragiles, voire insuffisants. Il y a un véritable décrochage, Marie-Guerre.
Oui, parce que la proportion d'élèves les plus faibles est passée en 4 ans de 42% à donc plus de 54%. Et en parallèle, la proportion d'élèves les plus performants en maths diminue. Elle n'est plus que de 20% contre 29% 4 ans plus tôt. L'inégalité sociale est flagrante. On observe cette baisse du niveau dans les écoles qui accueillent les élèves les moins favorisés. Filles ou garçons, le niveau baisse quel que soit le sexe de l'enfant, mais les garçons restent quand même plus performants que les filles. Et donc, plus de la moitié des élèves qui entrent en collège n'ont pas les compétences et les acquis requis pour réussir en 6e. Le goût pour les maths est aussi en déclin. Ils ne sont que 54% à attendre le cours avec impatience. c'était 77% en 2014. Une chose ne change pas en revanche, la peur de la mauvaise note. 60% la redoutent. Les élèves testés en CM2 pour cette étude n'avaient pas bénéficié du dédoublement des classes en REP et REP+, initié à la rentrée 2017. Un plan mathématique a été lancé en 2018 et le ministère a prévu de publier cette année un guide de référence pour enseigner les mathématiques au CP. C'est donc la prochaine étude en 2023 qui dira si ces dispositifs ont permis de relever le niveau.
Et c'est vrai que la peur de la mauvaise note, Marie, c'est quelque chose de très français. Merci. Le coronavirus a fait caler le marché de l'automobile en chute de 29% depuis le début de l'année par rapport à la même période l'an dernier. Le mois de septembre limite la casse avec une baisse d'un peu moins de 3%. Les primes à la conversion ont permis d'amortir le choc, mais le coup de pouce est désormais moins généreux. Et la fin de l'année, Christophe Bourg, risque d'être compliquée.
Oui, car franchement, on voit mal dans les trois prochains mois comment les constructeurs vont pouvoir refaire le retard qui s'est creusé pendant la crise. À ce rythme, au final, à peine 1,6 million de voitures seront vendues. C'est 400 000 de moins qu'une année normale, du jamais vu depuis 15 ans. D'autant que des nuages se profilent à l'horizon. Dès janvier, le malus va se durcir, avec pour les voitures les plus polluantes, une super taxe qui va... cogner, c'est le mot, puisqu'elle va passer de 20 000 à 40 000 euros et 50 000 l'année d'après en 2022. 50 000, pour vous donner une idée, c'est le prix de deux Clio neuves.
Oui, effectivement. Et cette fois, il y a un vrai engouement pour les voitures hybrides électriques.
Alors oui, un mois après mois, les compteurs s'affolent. En septembre, les ventes se sont encore une fois envolées. Plus 138% pour les pures électriques et plus 158% pour les hybrides, au détriment du diesel, mais aussi de l'essence, en chute de 22% le mois dernier. C'est désormais en France une voiture neuve sur 10 qui roule vert. Et ce sont les marques françaises qui tirent leur épingle du jeu, en tête Renault et sa Zoé, suivies par Peugeot, Tesla et DS.
L'indétrônable Zoé. Il a pris la parole pour la première fois depuis sa tentative d'empoisonnement. L'opposant politique russe Alexei Navalny a accordé une interview au magazine allemand Der Spiegel et il accuse nommément Vladimir Poutine d'être derrière sa tentative de meurtre. Blandine Milsan, vous êtes à Berlin pour RTL.
Oui, on ne peut pas être plus clair. J'affirme que Poutine est derrière ce crime et je n'ai pas d'autre version de ce qui s'est passé, déclare l'opposant russe dans cette interview traduite en anglais et en russe par le Spiegel. Plus d'un mois après son empoisonnement, Alexei Navalny dit avoir retrouvé ses facultés mentales, mais il lui faut encore ses deux mains pour se verser un verre d'eau, remarquent les journalistes qui l'ont rencontré. Il a perdu 12 kilos, il est nerveux, ne peut plus s'endormir sans somnifère. Navalny revient sur ce qui s'est passé dans l'avion le ramenant à Moscou le 20 août dernier, cette demi-heure où il sent qu'il va partir. Tu ne ressens aucune douleur, dit-il, mais tu sais que tu vas mourir. Aujourd'hui, il affirme qu'il a bien l'intention de retourner un jour en Russie. Mon devoir est de rester un homme comme je suis, qui n'a pas peur, et je n'ai pas peur. Je ne ferai pas à Poutine ce cadeau de ne pas rentrer. À Moscou, la réaction à cette interview ne s'est pas fait attendre. Navalny est un agent occidental, déclare le président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Un agent occidental à qui Poutine aurait sauvé la vie en l'autorisant à aller se faire soigner en Allemagne.
Blandine Milsan, l'Europe lance une procédure d'infraction contre le gouvernement britannique. Un projet de loi porté par Boris Johnson revient en partie sur l'accord de Brexit. Le Royaume-Uni se prépare à un no deal, c'est-à-dire une sortie sans accord sur les relations commerciales. En conséquence, 7000 camions pourraient se retrouver dans la région du Kent, refoulés à la douane à Douvres ou bloqués plus au nord parce qu'ils n'ont pas les papiers nécessaires pour traverser la Manche, Marie Billon.
7000 camions à la queue leu-leu, ça représente la distance entre Londres et Douvres. Le comté du Kent ne serait donc plus le jardin de l'Angleterre, mais le garage de la nation. Un vrai purgatoire des poids lourds. Alors pour éviter ça, Londres a décidé d'installer une frontière intérieure invisible. Tous les camions de plus de 7,5 tonnes devront avoir un permis pour rentrer dans le Kent. Un visa qui leur sera délivré à travers un logiciel, Smart Freight, si ils ont les papiers nécessaires pour traverser la Manche. La police compte faire appliquer cette mesure grâce à des caméras de reconnaissance, des plaques d'immatriculation et d'autres moyens non révélés. Les critiques remarquent que c'est donc dans les régions frontalières du Kent, notamment le Grand Londres, que les poids lourds pourraient se retrouver coincés et le Brexit, qui devait mettre au panier la paperasserie européenne, semble multiplier les obligations administratives. Un scénario du pire qui pourrait être évité si les Français font preuve de pragmatisme, a dit le numéro 2 du gouvernement britannique, et si les transporteurs ont effectué les préparations nécessaires. Les routiers aimeraient bien commencer à se familiariser avec ce logiciel, mais pour l'instant, il n'est pas encore finalisé.
Marie Veillon à Londres pour RTL. Un mot de sport, le rugby rattrapé par le Covid. Il y a 9 cas positifs au sein du Racing 92. On ne sait pas encore s'il s'agit de joueurs ou de membres de l'encadrement. Ça complique singulièrement les choses à 16 jours d'une finale européenne contre les Anglais d'Exeter à Bristol. Le match prévu contre La Rochelle en top 14 samedi est d'ores et déjà reporté. À Roland-Garros, il ne reste plus qu'un seul Français pour le troisième tour, le jeune Hugo Gaston. C'est du jamais vu depuis 10 ans. On compte sur les Françaises aujourd'hui avec Ferro, Burel et Alizé Cornet. On fera le point tout à l'heure à 13h avec Morad Djabari. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer dans quelques minutes au 32-10. Pascal.
Faut-il allonger le délai légal pour recourir à l'avortement? Aujourd'hui, il est de 12 semaines et on imagine de le passer à 14. Alors pourquoi? Pourquoi? La raison, c'est que c'est pas facile aujourd'hui de se faire avorter. Et il y a parfois embouteillage dans les hôpitaux. Donc on donne ce délai pour des femmes qui sont parfois obligées d'aller se faire avorter à l'étranger. Il y a, paraît-il, entre 3 et 5 000 personnes. Ouais. Donc c'est ça le fondement de la loi. Et on en parlera avec le professeur Israël Nizan, qui est président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. On pourra également parler des mathématiques, c'était passionnant de vous écouter, vous étiez doué en maths.
Absolument nul.
Bon, d'accord. L'INSERM invite également tous les Français prêts à tester un des projets de vaccin. Ça aussi, c'est une question qui nous concerne tous. Est-ce que vous iriez? Vous n'êtes pas obligé de répondre, Christelle ou Louis Bonin. Est-ce que vous iriez naturellement? Bon, et en plus là, c'est des volontaires. Mais si c'est obligatoire, est-ce que vous rechigneriez à vous faire vacciner? Ça, c'est une excellente question, comme tous les jours.
Allez, comme tous les jours, à tout de suite. Louis Baudin, un peu de pluie avant la tempête.
Oui, exactement. Hein. On va avoir encore aujourd'hui, si je peux dire, un temps relativement calme, mais pluvieux. Hein. C'est vrai qu'on a une belle perturbation là, qui progresse dans l'Est. Actuellement, on la retrouve quasiment de la vallée du Rhône, région Rhône-Alpes, montant vers la Lorraine, elle va arriver sur l'Alsace. Elle concerne encore une partie du Massif central. Et puis après son passage, on l'a retrouvé dans l'Ouest, quelques éclaircies, entrecoupées quand même de quelques averses, plus soutenues au nord de la Loire, en attendant donc cette tempête que je vois déjà arriver là sur la pointe bretonne avec beaucoup de pluie et les vents qui vont se renforcer à partir du milieu de la nuit puisqu'on craint malheureusement des rafales approchant les 140-150 km/h notamment du côté du Morbihan, mais tout ça va petit à petit se propager à l'ensemble de la Bretagne où on aura probablement des rafales quasiment partout supérieures à 100 km/h pour une bonne partie de la nuit et de la journée de demain.
Et demain alors justement comment ça va se passer?
Cette même tempête, alors elle va faire une espèce de boucle, c'est-à-dire qu'elle va rentrer sur la Bretagne par à peu près Saint-Nazaire et puis ensuite elle va se diriger vers le Cotentin. Puis elle va revenir sur le nord de la Bretagne pour descendre
samedi. En fait,
elle
tourne sur elle-même.
Et donc, elle va tourner sur elle-même. On va voir si ça se vérifie, parce que j'ai rarement vu ça quand même, en tout cas chez nous. Et puis ensuite, elle va glisser samedi sur la façade atlantique. Donc, vous voyez que pendant tout ce temps-là, sur toutes les régions de l'Ouest, elle va maintenir un temps nuageux, pluvieux, avec des rafales de vent dépassant ou atteignant les 100 km/h. Et puis, les autres régions auront un peu moins de vent, mais également beaucoup, beaucoup de pluie et de neige en montagne.
Merci, Louis.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
C'était l'une des questions du jour. Est-ce que nos élèves sont en sécurité dans les établissements scolaires? Est-ce que vous avez peur pour vos enfants? Hier, un lycéen de 16 ans a été agressé au couteau dans sa classe. Donc on est avec Olivier. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Quel est votre sentiment?
Moi, je pense qu'il y a une certaine insécurité. Certes, aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup plus de violence qu'auparavant. Parce qu'auparavant, on ne voyait pas tout ça. Mais je n'ai pas la solution si ce n'est la communication.
On va pouvoir développer cela dans une seconde après le rappel des titres avec Christelle.
Elle reste fermée à Bordeaux et à Nice, mais les salles de sport vont pouvoir rouvrir à Rennes. Pour la première fois, un tribunal administratif a retoqué un arrêté préfectoral. Y aura-t-il un nouveau tour de vis? Olivier Véran, le ministre de la Santé, tiendra son point presse hebdomadaire sur l'épidémie à 18h. Michel Fourniret sera confronté à son ancienne épouse Monique Olivier le 9 octobre. Cette dernière l'a accusé d'avoir violé et tué Estelle Mouzin en 2003 dans les Ardennes. Le tueur en série avait fini par avouer sa responsabilité sans pour autant dire où se trouve le corps. L'Europe lance une procédure d'infraction contre Londres. Le gouvernement de Boris Johnson soutient un projet de loi qui revient en partie sur l'accord du Brexit. On part à Roland-Garros retrouver Morad Djabari. Bonjour Morad.
Bonjour.
C'est la journée des dames. Aujourd'hui, on attend beaucoup des Françaises. Et par ailleurs, la tête de série numéro 2, Carolina Pliskova, vient d'être éliminée.
Exactement, place aux dames, aux françaises aujourd'hui. Tout d'abord avec Fiona Ferro, 49e mondiale, qui va rencontrer Elena Rybakina, la tête de série numéro 14. Alors vous allez me dire, Christelle, c'est mal embarqué. Pas vraiment, on peut s'attendre à une surprise de notre française de 23 ans. Elle n'a pas perdu un match depuis février dernier et c'était face à Rybakina. C'était sur une surface dure et avantage à la française sur terre battue. Match sur le Suzanne Lenglen. Ensuite, sur le court Simone Mathieu, Alizé Cornet sera aux prises de la chinoise Zhang. Et la jeune Clara Burel, 19 ans, championne de l'Open d'Australie et numéro 1 chez les juniors, c'est la révélation de ce Roland. La bretonne est de la génération d'Hugo Gaston, vous savez, le jeune de 20 ans, le français hier qualifié pour le... Exactement, qualifié chez les garçons hier pour le troisième tour. On espère qu'elle va suivre le même exemple. Clara Burel sera face à la Slovène Juvan. Donc place aux dames aujourd'hui. Sinon, on verra aussi sur le central Novak Djokovic et le grec Tsitsipas.
Un prochain point, 13h30. À tout à l'heure.
Exactement, à tout à l'heure.
Jusqu'à 14h30.